Un adolescent, livre 2, chapitre 7. 1. Je me réveillai à 8 heures du matin, m'enfermai à clé, m'assis près de la fenêtre et laissai mes pensées fluer. Deux fois, la chambrière vient frapper à ma porte, mais je la renvoyais. Vers 10 heures, on frappa de nouveau, j'allais me fâcher, mais c'était Lise. Avec elle, entra la servante, munie de mon café et qui se disposa à faire du feu. Tandis qu'elle allumait le bois dans le poêle, je marchais à grands pas dans ma petite chambre, sans engager la conversation, et même en évitant de regarder Lise. La servante opérait avec une lenteur calculée, comme elles font toutes, diaboliquement, quand elles se sentent importunes. Lise, assise près de la fenêtre, m'examinait. « Ton café deviendra froid ?» dit-elle tout à coup. Je la regardais. Pas la moindre confusion, le calme complet, et même un sourire sur les lèvres. « Voilà les femmes, » avais-je envie de dire, et je haussai les épaules. Enfin, la domestique, son poêle allumé, voulut faire la chambre, mais je l'évinçai avec emportement et fermai la porte à double tour. « Dis-moi, je t'en prie, pourquoi as-tu fermé si soigneusement la porte ?» demanda Lise. Je m'arrêtai devant elle. « Lise, as-tu pu croire me tromper toujours ?» Elle rougit, mais ne me répondit pas, et elle continuait de me regarder dans les yeux. « Attends, Lise, attends. Oh, que j'ai été sot. Mais comment pouvais-je savoir ? Je te prenais pour un soleil, Lise. Et comment aurait-il pu m'entrer dans la tête que... Te souviens-tu quand je t'ai rencontrée il y a 2 mois, chez lui, et que nous avons marché dans le soleil, et que nous étions heureux ? Cela avait été déjà alors. Cela avait été déjà alors. Cela avait été. Elle répondit d'une inclinaison de la tête. « Ainsi tu me trompais déjà. Ce n'est pas ma bêtise, Lise. C'est, plutôt que ma bêtise, mon égoïsme qui m'a aveuglée. Et aussi ma croyance folle en la sainteté. Je ne regardais qu'en moi-même. Pourquoi aurais-je regardé en vous ? J'avais foi en vous tous. Vous me sembliez si supérieur à moi. Hier, à la maison, l'étrangeté de vos façons n'a pu me dessiller. Je n'ai pas eu le temps de comprendre tous ces sous-entendus. » Je me ressouvins de Catherine Nikolaïevna. Je sentis comme un coup d'épingle au cœur, et je rougis. Naturellement, en ce moment, je ne pouvais pas être bon. « Mais de quoi t'excuses-tu, Arcade ? De quoi ?» demandait Lise d'une voix douce et ferme. « Je ne sais pas comment, dans des cas pareils, agit un frère. Oui, un pistolet au poing, on force le coupable au mariage. Mais nous ne sommes pas des gentilshommes, et lui, il est prince. Il ne voudrait même pas entendre. Nous sommes des enfants naturels quelconques, sans nom, les enfants d'un valet de seigneur. Et les princes, est-ce qu'ils se marient avec des filles de valet ? Oh, quelle saleté ! Et toi, tu restes là à t'ébahir ? Je crois que tu te tourmentes, disait Lise en rougissant de nouveau. Mais tu vas trop vite, et tu te fais du mal.
Je vais trop vite ? Je ne suis pas assez en retard, selon toi ?
Oh, maintenant je vois clair, et tout le tableau est devant moi. Le prince s'est imaginé que depuis longtemps j'avais deviné sa liaison avec toi, et que l'argent que je touchais soldait le déshonneur de ma sœur. Cela lui répugnait, je l'excuse, et tu as permis tout cela, tu ne m'as pas prévenu. Il me méprisait à tel point qu'il avait parlé de moi à Stiebielkov, et me disait hier qu'il voulait nous chasser tous les deux, mon Versilov et moi. Et Stiebielkov donc ? Anna Andreïevna est une sœur pour vous, comme Elisabeth Makarovna. Et encore, mon argent est meilleur. Darzan doit savoir cela, lui aussi, si j'en juge à son ton d'hier soir. Tous savaient, sauf moi.
Personne ne sait rien. Il n'a rien dit à personne. Quant à ce Stiebielkov qui le persécute, tout au plus a-t-il pu faire des suppositions. Je lui ai parlé de toi plusieurs fois, et il me croyait. Il était convaincu que tu ne savais rien. Hier, du moins, je me suis acquittée envers lui de ce fardeau d'argent. Lise, maman le sait. Mais comment ne saurait-elle pas? Hier, comme elle s'est soulevée contre moi. Ah, Lise, est-ce possible que tu te croies dans ton droit et que tu ne t'accuses nullement? Je ne sais ce que l'on pense maintenant sur ces choses et quelles sont tes idées. Tes idées sur moi, sur maman, sur le père. Le sait-il, Versilov?
Maman ne lui a rien dit. Il n'interroge pas. Il n'aime pas interroger.
Il sait, mais il ne veut pas savoir. C'est cela, et c'est bien de lui. Laisse-moi de côté aussi, Lise. Mais la mère, est-ce que tu n'as pas pensé, Lise, que ta conduite était une leçon pour maman? Cela m'a tourmentée toute la nuit. Elle doit se dire, c'est parce que j'étais coupable aussi, telle mère, telle fille.
Oh, que c'est méchant et cruel, ce que tu viens de dire.
Ses larmes jaillirent. Elle se leva, alla vivement vers la porte. « Attends, attends » fis-je en l'enlaçant, et je la forçai à se rasseoir.
« Soit, je te dirai tout. Ce n'est que par orgueil que je me taisais tout à l'heure. Mais maman et vous, je vous plains beaucoup plus que moi-même. »
Elle n'acheva pas et se mit à pleurer. « Assez, Élise, il ne faut pas, il ne faut rien. Moi, je ne suis pas ton juge. » « Lise, que dit maman? Il y a longtemps qu'elle sait ?»«
Je présume qu'elle sait depuis longtemps, mais je ne lui ai avoué que depuis peu.
Quand ceci arriva, » dit-elle doucement, en baissant les yeux.
« Et elle ?»«
Elle a dit, « Porte ton fardeau !» ajouta encore plus doucement Lise.
« Ah, Lise, oui, porte ton fardeau. Ne tente rien contre toi, Dieu te garde. »
« Je ne tenterai rien. » Et elle levait ses yeux sur moi.
« Sois tranquille, » ajouta-t-elle, « c'est tout à fait autre chose. »
« Lise, chérie, je vois seulement que je n'y comprends rien. Mais je viens de comprendre combien je t'aime. Lise, tout serait clair pour moi, excepté une seule chose. Pourquoi l'as-tu aimé? Comment pouvais-tu aimer un être pareil? Voilà la question. »
Et sans doute, cela t'a tourmenté aussi toute la nuit ?
Sourit doucement Lise. Attends, Lise, ma question était sotte et tu plaisantes.
Plaisante. Mais il est impossible de ne pas s'étonner. Toi et lui, quel contraste !
Lui, je l'ai étudié. Il est sombre, méfiant, peut-être très bon, je l'admets, mais apte à un haut degré à voir, avant tout et dans tout, le mal. En cela, du reste, parfaitement semblable à moi. Il estime passionnément la noblesse. Il est enclin au repentir, il passe sa vie à se repentir, mais il ne se corrige jamais. Autre point commun entre nous, hélas. Un tas de préjugés et pas une idée. Il voudrait accomplir un exploit et il se perd en bagatelle.
Pardon. « Pardon, Lise, je suis du reste un imbécile. En disant ces choses, je te fais du chagrin. »
« Le portrait aurait pu être exact, » avait souri Lise. « Mais tu es trop aigrie contre lui, et cela trouble la ressemblance.
Oui, il est méfiant et maladif, et sans moi, il serait devenu fou. S'il m'abandonne, il deviendra fou ou se suicidera. Il me semble qu'il l'a compris et qu'il le sait. » ajouta-t-elle comme pour elle-même et pensive.
« Oui, il est continuellement faible, mais des faibles de sa sorte sont capables d'une grande action quelquefois. »
« Tu as parlé de pistolet, Arcade. Il ne faut rien de cela, et je sais moi-même ce qu'il en sera. Ce n'est pas moi qui cours après lui, c'est lui qui me suit. »
Maman pleure et dit « « Si tu deviens sa femme, tu seras malheureuse. Il cessera de t'aimer. »
« Je ne le crois pas.
Malheureuse, il se peut que je le sois, mais il ne cessera pas de m'aimer.
Ce n'est pas dans cette crainte que je lui refusais mon consentement, mais pour une toute autre chose.
Enfin, aujourd'hui, je lui ai dit « Oui, je serai ta femme. »
« Arcade, sais-tu ?
Hier. » Ses yeux brillaient et elle jeta ses bras autour de mon cou.
Hier, il est allé chez Anna Andreevna et lui a dit avec toute sa franchise qu'il ne pouvait l'aimer. Et c'est fini maintenant de cette pensée. Il ne s'était occupé de rien, Tout cela était l'œuvre du prince Nicolas Ivanovitch. De plus, ses bourreaux, Siebielkov et encore un, prétendaient lui forcer la main. C'est pour cela que je lui ai dit oui. Cher Arkad, ne t'offense pas de ce qui s'est passé hier. Il est indisposé aujourd'hui et restera toute la journée chez lui. Il est véritablement souffrant, Arkad. Ne pense pas que ce soit une échappatoire. Il m'a dépêché auprès de toi pour te dire qu'il avait besoin de toi, qu'il avait beaucoup de choses à te dire et que, chez toi, dans cet appartement-ci, vous seriez moins à votre aise pour causer. Ah, Arkad, j'ai honte de le dire, mais en venant ici, j'avais peur que tu aies cessé de m'aimer. Tout le long du chemin, j'ai fait des signes de croix. Et toi, tu es si bon, si gentil, je ne l'oublierai jamais. Je vais chez maman. Tâche de l'aimer un peu, hein ? Je l'embrassai avec effusion. Je crois, Lise, que tu es un caractère fort. Oui, je crois que c'est lui qui te suit. Mais tout de même...
Tout de même, pourquoi l'aimes-tu ? Voilà la question,
reprit-elle avec un sourire et en m'imitant. Voilà la question. Et exactement à ma manière, elle levait l'index entre ses yeux. Nous nous embrassâmes encore, mais quand elle fut sortie, mon cœur de nouveau se serra. 2.
Eh, qu'ai-je à me tourmenter, pensais-je. Il en arrive autant à tout le monde, ou presque. Le cas fâcheux de Lise n'offre rien de tellement particulier. Et suis-je forcé de venger l'honneur de la famille ? Allons. Comme on voit, je n'excelle pas à faire le départ entre bien et mal. C'était le sentiment qui me sauvait. Je savais Lise malheureuse, maman malheureuse, et je le savais par le sentiment, quand je pensais à elle. Et c'est pour cela que j'estimais mauvais tout ce qui était arrivé. De ce jour, jusqu'à la catastrophe de ma maladie, les destins me furent sévères. Ma lucidité courut des risques, et si j'avais fini par un crime, le crime fut bien près de se consommer. Les jurés probablement m'auraient absous. Les événements s'étaient précipités en rafale, et mes pauvres idées y tournoyaient comme des feuilles sèches. Je veux, fidèle, la relation que j'en fais après coup. On n'y cherchera donc pas une suite stricte. J'avais décidé d'aller chez le prince Serge le soir même. La journée, je la passais chez moi. À la nuit, je reçus une carte postale de Siebielkov. 3 lignes, me priant instamment de me rendre chez lui, le lendemain matin, pour affaires importantes. Soit, on verra, nous avons le temps. Il était déjà 8 heures. Versilov, que j'attendais, n'était pas venu et ne venait pas. D'autre part, je ne pouvais pour le moment aller chez ma mère, et d'ailleurs je sentais que, de son côté, Versilov n'avait pas dû y paraître de tout le jour. Je sortis à pied. Chemin faisant, il me vint en tête de passer au cabaret d'hier. Versilov y était à la même place. « Je savais que tu viendrais, » dit-il avec un sourire. Un sourire mauvais que depuis longtemps je n'avais pas vu sur son visage. Attablé, je lui racontai les faits concernant Lise et le prince, mon histoire d'hier chez celui-ci après la séance de jeu, et je n'oubliais pas de mentionner mon gars. Il m'écouta, très attentif. Puis, « Pauvre enfant, il se peut qu'elle n'y gagne rien, mais probablement cela n'aurait-il pas lieu, quoi qu'il soit bien capable. « Dites-moi comme un ami, vous saviez cela ? Vous l'avez pressenti ? Mon ami, qui pouvais-je ? Tout cela, c'est affaire à la conscience d'autrui, même ce qui concerne cette malheureuse fillette. Je te le répète, à la longue, je suis devenu discret. En cas de malheur, toutefois, je ne refuserai pas de venir en aide à quelqu'un, dans la mesure de mes forces, sous réserve que je comprisse quelque chose à ce qui se passe. Mais toi, mon petit, tu n'as rien soupçonné de tout ce temps ? Comment avez-vous pu ? M'écriai-je, et un flot de sang me montait à la face.
Comment avez-vous pu tolérer ma présence, me parler, me serrer la main, si vous me soupçonniez? Et vous m'en soupçonniez, je le vois, de connaître la liaison de ma sœur, moi qui recevais de l'argent de son amant. »
De nouveau, affaire de conscience, avait-il souri.
Et sais-tu, ajouta-t-il de son air équivoque, sais-tu si je n'avais pas peur, comme toi, hier, dans un autre cas, de perdre mon idéal, et de trouver dans mon pétulant et honnête garçonnet une canaille? Circonspect, je retardais le moment de la lumière crue. Pourquoi ne pas admettre en moi, au lieu de la paresse ou de la perfidie, quelque chose de plus innocent, même de bête, mais de plus noble? Et puis, que diable, à quel titre serais-je si exigeant pour mon fils? Enfin, une conversion obtenue de vive force n'eût pas été pour moi d'un haut prix.
Élise, la plaignez-vous? La plaignez-vous?
Je la plains beaucoup, mon cher. Où prends-tu que je doive être si insensible? Au contraire, je tâcherai de toutes mes forces.
Eh bien, et toi, comment vont tes affaires?
Laissons mes affaires. Pour le moment, il n'y a pas de mes affaires. Dites, pourquoi doutez-vous qu'il se marie? Hier, il a été chez Anna Andreïevna et a positivement ôté tout crédit à cette pensée bête que le prince Nicolas Ivanovitch avait conçue de les fiancer. Il a refusé positivement.
Quand cela? Et de qui tiens-tu le renseignement?
Quand je lui eus raconté tout ce que je savais, alors cela se passait seulement une heure avant une autre explication. Oui, certainement, une entrevue à ce sujet a pu avoir lieu entre eux. Mais que je sache, rien ne s'est dit ni d'un côté ni de l'autre. Oui, certainement, il suffit de deux mots pour s'expliquer. Mais je vais te faire une communication qui t'intéressera sûrement. Même si ton prince se fût avisé de lui demander sa main, et en considération de Lise, j'aurais, entre nous soit dit, tâché d'empêcher ce mariage. Anna Andreïevna se serait sûrement dérobée. Tu l'estimes et l'apprécies, n'est-ce pas? C'est très gentil de ta part, et tu vas te réjouir de ce qui lui arrive. Mon cher, elle se marie. Et moi, évidemment, je bénirai l'union.
Elle se marie? Mais avec qui?
M'écriai-je extrêmement étonné.
Devine?
Mais non, je ne veux pas te faire perdre ton temps. Avec le prince Nicolas Ivanovitch, ton cher vieux.
Je regardais de tous mes yeux.
Il se peut qu'elle eût cette pensée depuis longtemps, et j'imagine qu'elle l'a artistement polie sur toutes les facettes. Continua-t-il avec nonchalance. Je présume que cela dut se passer juste une heure après la visite du prince Serge. Elle était tout simplement venue chez le prince et lui avait fait la proposition.
Comment? Elle lui avait fait la proposition? Vous voulez dire que c'est lui qui la lui a faite?
Oh, il en est incapable. Elle-même. Et voilà pourquoi il est dans le ravissement. On dit que depuis il passe son temps à s'étonner que cette éventualité ne se fût pas présentée à son esprit. J'ai entendu dire qu'il était même quelque peu malade, de ravissement aussi, sans doute.
Écoutez, vous dites cela d'un ton si railleur, je ne peux presque pas y croire. Et comment a-t-elle pu s'offrir elle-même? Qu'a-t-elle dit?
Sois sûr, mon ami, que je me réjouis de bon cœur. Me répondit-il d'un ton congrûment sérieux.
Il est vieux, d'accord, mais il peut se marier selon les lois et les usages, et c'est encore l'affaire de la conscience d'autrui. Elle est compétente. Quant aux termes qu'elle employa, je les ignore, mon ami. Sois sûr seulement qu'elle a mené les pourparlers beaucoup plus dextrement que toi ou moi n'aurions su faire. Et en somme, il n'y a dans l'aventure nul scandale. Tout cela est très comme il faut au regard du monde. Assurément, elle désirait se faire une situation dans la société. Mais aussi, en est-elle digne? Crois-moi, elle a fait sa proposition d'une manière magnifique et excellente.
C'est un type sévère, mon ami, une chanoinesse, comme tu l'as qualifié un jour, une demoiselle calme, comme je l'appelle depuis longtemps. Elle est presque sa pupille, tu le sais, et maintes fois elle a éprouvé ses bontés. Elle m'assurait depuis longtemps déjà qu'elle le tenait en haute estime, le plaignait, sympathisait avec lui, etc. Bref, j'avais subi une préparation, et j'ai été mis au fait officiellement ce matin même, par mon fils, son frère, André Andreïevitch, que tu ne connais pas, je crois, et que je vois juste deux fois par an. Il approuvait respectueusement sa démarche.
C'est connu déjà ? Dieu que je suis surpris !
Non, on gardera la nouvelle secrète un certain temps. Combien, je ne sais pas au juste, car je me tiens à l'écart.
Mais Catherine Nikolaïevna, maintenant, cette complication n'est pas pour plaire à Bioring.
Sur ce point, je n'ai pas de lumière spéciale. Quelle femme pourtant, cette Anna Andreïevna. Justement, hier matin, elle me demandait si j'aimais ou non Madame Veuve Akhmakov. Te rappelles-tu, je te le racontais hier avec étonnement. Elle n'eût guère pu se marier avec le père si j'avais épousé la fille. Comprends-tu maintenant ?
Mais est-il possible qu'Anna Andreïevna supposât que vous... pouviez vous marier avec Catherine Nikolaïevna ?
Évidemment oui, mon ami. Mais du reste,
il me semble qu'il est temps que tu ailles où tu veux aller. Moi, vois-tu, j'ai toujours mal à la tête. Je vais faire jouer Lucie. J'aime la solennité de l'ennui. Je t'aime, mon cher, mais adieu. Quand je souffre de la tête ou des dents, je suis avide de solitude.
Sur mon visage parut une ride de souffrance. Je crois maintenant qu'il souffrait alors de la tête. Surtout de la tête.
À demain, lui dis-je. Qu'est-ce que cela veut dire, à demain ? Et qu'est-ce qu'il y aura demain ?
Sourit-il de travers.
J'irai chez vous, ou vous viendrez chez moi.
Non, je n'irai pas te voir. Et toi, tu accourras chez moi. Je ne prêtais pas grande attention à l'expression méchante de son visage.
Un pareil événement.
3. Le prince était réellement souffrant. Il restait chez lui tout seul, la tête ceinte d'une serviette mouillée. Il m'attendait avec impatience. Mais ce n'était pas seulement à la tête qu'il avait mal. Plutôt souffrait-il moralement. Avis. Tous ces derniers temps, et jusqu'au moment de la catastrophe, je rencontrais force gens surexcités au point de paraître presque fou. Moi-même dus subir la contagion. Quand j'entrais chez le prince, les cordes vibraient faux dans mon âme. J'avais honte d'avoir pleuré devant lui la veille, et j'estimais que de m'être laissé leurrer si complètement au sujet de Lise, il devait me tenir pour un triple sot. Mais je dois lui rendre cette justice. Aussitôt que sa méfiance était brisée, il se livrait à plein cœur. Des traits d'une douceur presque enfantine, des traits de confiance et d'amour apparaissaient en lumière. Il m'avait embrassé, les larmes aux yeux, et s'était mis à parler de l'affaire. Oui, vraiment, il avait besoin de moi. Dans ses paroles et dans l'enchaînement de ses idées, il y avait beaucoup de désordre. Il me donna pour ferme son intention de se marier avec Lise et au plus vite.
Le fait qu'elle ne soit pas née ne m'a pas préoccupé une minute, dit-il. Mon grand-père a épousé la fille d'un valet, une chanteuse du théâtre d'un propriétaire voisin. Évidemment, ma famille fondait sur moi certains espoirs, mais elle saura se résigner à les voir déçus. Je veux rompre définitivement avec tout ce qui est mondanité, vivre autrement, mener une vie neuve. Je ne comprends pas pourquoi votre sœur m'a aimée, mais il est probable que sans son amour, je ne serais plus de ce monde. Je considère notre rencontre à Louga comme providentielle. Je crois qu'elle m'a aimée pour l'immensité de ma chute.
Mais comprendrez-vous cela, Arkad Makarovitch ? Absolument.
Je répondis cela d'une voix convaincue. J'étais assis dans un fauteuil devant la table. Lui, il faisait les 100 pas dans la chambre. Je dirai par le menu les circonstances de notre rencontre. Cela commença par un secret de mon âme qu'elle seule a connu, car à elle seule, je me suis décidé à le confier. Et tout le monde l'ignore jusqu'aujourd'hui. J'étais arrivé à Louga infiniment triste et soucieux surtout de solitude. J'y vivais chez Madame Stolbeyev. C'était peu après avoir quitté le régiment de dont je faisais partie depuis mon retour de l'étranger, période d'Ems. À ce régiment, j'avais mené grand train, et pourtant les autres officiers ne m'aimaient guère. Il faut que je vous l'avoue, personne ne m'a jamais aimé. Il y avait là un cornette, un certain Stiepanov, personnage nul et même quelque peu stupide. Du reste, incontestablement honnête. Il avait pris l'habitude de venir chez moi, je ne faisais pas de cérémonie avec lui. Il passait dans un coin des journées entières, en silence et avec dignité, mais ne m'ennuyait en rien. Une fois, je lui avais raconté une anecdote courante et l'avait enjolivée de beaucoup de bêtises sur la fille du colonel, disant qu'elle avait un faible pour moi et que son père en passerait par où je voudrais. De quoi résulta une calomnie très compliquée et très odieuse. Elle était répandue non par Stiepanov, mais par mon ordonnance. Ce soldat avait entendu tout ce qui concernait la jeune personne, et quand il répétait ce récit absurde, il ne manquait pas de donner comme référence Stiepanov. Le colonel réunit chez lui ses officiers pour tirer au clair ses bavardages. C'est alors que la question fut posée à Stiepanov devant tout le monde. Avait-il entendu ou non? C'était pour lui un cas de conscience. Il dit toute la vérité. « Eh bien, qu'ai-je fait alors, moi, prince de race millénaire ?» J'ai nié, et j'ai dit à Stiepanov qu'il avait menti. Je le lui ai dit poliment. Il avait mal compris, etc. Mon avantage sur lui consistait en ceci. Du fait qu'il avait été mon hôte assidu, je pouvais dire sans trop d'invraisemblance qu'il s'était entendu avec mon brosseur. À cette articulation, il me regarda sans mot dire et haussa les épaules. Je n'oublierai jamais ce regard. Puis il avait immédiatement démissionné. D'un commun accord, les officiers lui firent une visite pour le prier de retirer sa démission. 2 semaines plus tard, j'avais quitté le régiment. Personne ne m'incitait à démissionner. J'avais allégué des affaires de famille. Au début, je m'accommodais fort bien de ma situation nouvelle. Je vivais à Louga, j'avais fait la connaissance d'Elisabeth Makarovna, mais un mois plus tard, je regardais déjà mon revolver. Je considère toute chose sous la face sinistre, Arkady Makarovitch. J'avais rédigé pour le commandant et les camarades du régiment la confession complète de mon mensonge, réhabilitant ainsi Stiepanov. La lettre écrite, je me posais le problème. Envoyer et vivre ou envoyer et mourir? Je ne parvenais pas à le résoudre. Un hasard aveugle, après une courte et étrange conversation avec Elisabeth Makarovna, m'avait rapproché d'elle. Jusqu'alors, quand je la rencontrais chez Madame Stolbeyev, nous échangions des saluts, rarement des paroles. Subitement, je lui avais tout avoué. C'est alors qu'elle m'avait tendu la main.
Comment trancha-t-elle la question?
Je n'expédiais pas la lettre. Ainsi en avait-elle décidé, raisonnant comme suit. Envoyer la lettre, c'était accomplir un fort noble sacrifice et qui eût effacé les bouts les plus indélébiles. Mais encore fallait-il pouvoir le supporter. Or, cela dépassait, affirmait-elle, les forces de quiconque. L'avenir eût été brisé, et par suite, impossible la résurrection à la vie nouvelle. Pas encore si Stiepanov avait pâti, mais point, la société des officiers le tenait pour indemne. En un mot, un paradoxe. Mais elle m'avait retenu, et je me suis donné complètement.
Elle avait jugé en jésuite, mais en femme.
elle vous aimait déjà. Résultat, je me suis donné ma parole de changer ma vie, d'être digne de moi-même et d'elle. Mais voici la fin. L'héritage me tourna la tête. Avec vous, je courus les tripots. Les vanités mondaines reprirent un sens pour moi. Je tourmentais Lise. Oh, honte! Il se frotta le front et fit quelques pas dans la chambre. Nous sommes atteints l'un et l'autre, Arkady Makarovitch, du mal russe. Ne savoir que faire, dès qu'on n'est plus dans l'ornière tracée par la coutume. Mais vous ne savez pas encore toute la profondeur de ma chute. J'aimais Lise, je l'aimais sincèrement, et en même temps, je pensais à Madame Akhmakov.
Est-ce possible ?
M'étais-je écrié avec douleur.
À propos, prince, que m'aviez-vous dit hier de Versilov, qu'il vous excitait à commettre une lâcheté envers Catherine Nikolaïevna ?
Peut-être exagérais-je, et mes torts envers lui, du fait de ma méfiance, ne sont pas moins grands qu'envers vous. Mais laissons. Pensez-vous que, tout ce temps depuis Louga, je n'ai pas été fidèle, mentalement, à mon idéal? Il n'a rien perdu pour moi de sa beauté. Je me souvenais du serment que j'ai fait à Elisabeth Makarovna de renaître. Hier, quand il parlait ici des gentilshommes, André Petrovitch ne me disait rien que je ne susse. Mon idéal subsiste. Quelques dizaines d'arpents de terre, et seulement quelques dizaines, car il ne reste presque plus rien de l'héritage. Ensuite, une rupture complète avec le monde et avec ma carrière. Une maison à la campagne pour ma famille et moi. Être un laboureur ou quelque chose en ce genre. Oh, dans notre race, cela n'est pas nouveau. Le frère de mon père labourait sa terre lui-même, mon grand-père aussi. Nous sommes aussi nobles que les Rohan, mais nous sommes pauvres. Et voilà ce que j'aurais appris à mes enfants. Souvenez-vous que vous êtes gentilhomme, que dans vos veines coule le sang illustre des princes russes, mais ne soyez pas honteux que votre père ait labouré sa terre. Il le faisait en prince. Je ne leur aurais laissé pour fortune que ce lopin de terre, mais je leur aurais donné une instruction supérieure. Oh, Lise m'aurait aidé beaucoup. Les enfants, le travail. Oh, combien nous avons rêvé de tout cela, ici même. Or, je pensais en même temps à Madame Akhmakov, que je n'aimais pas, pourtant, et à la possibilité d'un riche mariage mondain. Et ce n'est qu'après avoir appris de Natchokine hier cette nouvelle relative à Bioring que j'ai décidé de me rendre chez Anna Andreevna.
Mais vous vous y êtes rendu pour refuser.
Voilà bien une action honnête, je présume.
Vous croyez? Vous ne connaissez pas encore ma nature. Ou il y a quelque chose là-dedans que je ne comprends pas moi-même.
Car il y a là-dedans autre chose encore que la nature. Je vous aime sincèrement, Arkady Makarovitch, et parce que j'ai été très coupable envers vous au cours de ces deux derniers mois, je veux que vous, comme frère de Lise, sachiez tout cela. Je m'étais rendu chez Anna Andreevna pour lui faire ma demande et non pour me désister.
Est-ce possible? Mais Lise disait...
J'ai trompé Lise.
Vous avez fait une demande en règle et Anna Andreevna l'a repoussée, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Les détails sont très importants pour moi, prince.
Non, je n'ai pas fait de demande du tout, mais seulement parce qu'il était trop tard. Elle m'a devancé, me faisant comprendre à mots couverts que ma prétention désormais était vaine.
De sorte que votre orgueil n'a pas souffert.
Et le jugement de ma conscience, et Lise que j'avais trompée, et que je voulais abandonner, et ce serment fait à moi-même, et à toute ma lignée ancestrale de renaître, de racheter mes vilainies. Je suis malade depuis hier. Et maintenant, tout est fini. Le dernier des princes Sokolski ira au bagne. Pauvre Lise, je vous ai attendu tout le jour pour vous révéler, comme aux frères de Lise, ce qu'elle ne sait pas encore. Je suis un criminel. Complicité dans la contrefaction des actions du chemin de fer de...
Qu'est-ce qu'encore que cela? Comment? Au bagne?
Je m'étais dressé et regardais Agar, son masque terreux. « Asseyez-vous, » dit-il, et il s'assit lui-même dans un fauteuil en face de moi. « D'abord, apprenez ce fait. Il y a plus d'un an, ce même été d'Ems, de Lydie et de Catherine Nikolaïevna, quand je me rendis à Paris pour 2 mois, l'argent naturellement me manquait. À ce moment, rôdait autour de moi Siebielkov, que du reste je connaissais déjà. Il me donna de l'argent, me promit de m'en donner encore, mais il sollicitait un petit service. Il avait besoin d'un homme qui fût tout ensemble, dessinateur, graveur, chimiste, et je ne sais quoi encore, pour certains travaux qui exigeaient une grande habileté technique. Le fait est que je connaissais, nous avions usé nos culottes sur les mêmes bancs scolaires, un individu qui, compromis dans une affaire de faux, avait quitté la Russie et s'était réfugié à Hambourg. C'est sur lui que comptait Siebielkov. Mais une recommandation était indispensable. Je lui accordai 2 lignes. Quelle importance cela avait-il? Et n'y pensais plus. Depuis, j'avais rencontré Siebielkov 1 fois, 2 fois, et il m'avait encore donné de l'argent. En tout, près de 3 000 roubles. J'avais littéralement oublié cette affaire. Ici, je prenais chez lui de l'argent, à tout propos, en échange de traite ou contre-gage, et il se tortillait humblement devant moi, comme un cerf. Et voilà qu'hier, j'apprends que... je suis un criminel.
À quelle heure, hier?
Hier, un moment avant l'arrivée de Natchokin. C'était la première fois qu'il osait parler clairement d'Anna Andreevna. J'avais levé la main pour le frapper, mais il s'était dressé subitement et m'avait annoncé que j'étais son complice et que j'eusse à m'en souvenir, que j'étais un escroc comme lui. Si ce n'est pas là les mots mêmes, c'est du moins leur sens.
Mais quelle bêtise! Mais c'est un rêve!
Non, ce n'est pas un rêve. Il est revenu aujourd'hui chez moi et a précisé. Ses actions sont en circulation depuis longtemps et il paraît qu'on commence à les saisir. Naturellement, je n'y suis pour rien, mais pourtant, c'est vous qui avez donné cette petite lettre. Voilà ce que m'a dit Siebielkov.
Mais vous ne saviez pas pourquoi? Ou bien le saviez-vous?
Je le savais, répondit le prince tout doucement en baissant les yeux. C'est-à-dire, voyez-vous, je le savais et je ne le savais pas. J'avais ri, j'étais gai. Je n'avais pensé alors à rien, d'autant que j'avais peu le loisir de penser à ses actions et que je ne me proposais pas d'en fabriquer. Mais pourtant, ces 3 000 roubles qu'il m'avait avancés alors, il ne me les avait pas portés en compte et je n'avais pas protesté. Et du reste, qu'en savez-vous? Peut-être suis-je un faux monnayeur? Je ne pouvais pas ne pas savoir. Je ne suis pas un enfant. Je savais donc... Mais cela m'amusait, et j'avais de gaieté de cœur prêté mon concours à des criminels. Et pour de l'argent. Par conséquent, je suis, moi aussi, un faux monnayeur.
Vous exagérez. Vous êtes coupable, mais vous exagérez.
Il y a dans cette histoire un certain Jibielski, un jeune homme encore, une manière de clair d'avouer. Il venait chez moi au nom de ce monsieur de Hambourg, pour des bêtises, naturellement, je ne savais pas pourquoi. Dans ses discours, il n'était pas question d'action. Mais néanmoins, 2 documents de ma main étaient restés chez lui. Des billets de 2 lignes, mais qui certainement ont leur importance. Je l'ai bien compris aujourd'hui. Siebielkov explique que ce Jibielski entrave tout, qu'il a volé de l'argent et qu'il doit émigrer. Et voilà qu'il a besoin de 8 000 roubles, pas moins, pour sa fuite. Ma part de l'héritage est suffisante pour me libérer envers Siebielkov, mais Siebielkov prétend indispensable que je satisfasse ainsi Jibielski. En un mot, il faut que je me désiste de ma part de succession
et paye en surplus 10 000 roubles. Voilà leur dernier mot, moyennant quoi on me rendra mes 2 lettres. Ils sont d'accord, c'est clair.
Mais s'ils vous dénonçaient, ils se livreraient eux-mêmes. Ils ne vous dénonceront donc pas.
J'entends bien. Aussi ne menacent-ils pas de me dénoncer. Ils se contentent de dire « Certes, nous ne vous dénoncerons pas, mais dans le cas où l'affaire serait connue, alors... » Voilà ce qu'ils disent, c'est tout. Je crois que c'est suffisant. Mais supposons que je rentre en possession des billets. Cesserais-je pour cela d'être solidaire de ces escrocs? Ah, être leur compagnon toujours, toujours. Mentir à la Russie, mentir aux enfants, mentir à Lise, mentir à sa conscience.
Lise sait?
Non, elle ne sait pas tout. Dans l'état où elle est, elle n'eût pas supporté ce choc. Oh, que faire?
Écoutez, vous n'avez qu'une voie de salut.
Allez chez le prince Nicolas Ivanovitch. Demandez-lui les 10 000 roubles, sans rien avouer. Convoquez vos 2 pirates. Faites-vous livrer contre espèce les papiers compromettants. Et ce sera fini. Toute l'affaire sera finie. Et allez la bourrer. Et confiez-vous à la vie.
J'y avais pensé. Je n'attendais que vous pour prendre une décision définitive.
J'irai donc chez lui. Savez-vous que jamais je n'ai emprunté 1 copec à Nicolas Ivanovitch? Il est bon pour notre famille. Mais moi, personnellement, je ne lui avais jamais demandé d'argent. Maintenant, je m'y résigne. Remarquez que Sokolski, tous deux, ma lignée est plus haute que la sienne. Eux, c'est la branche cadette, bâtarde même, presque discutable. Nos ancêtres étaient en dissension. Au temps de la réforme de Pierre, mon bisaïeul, Pierre aussi, était et resta vieux croyant. Il errait dans les forêts de Kostroma. Ce prince Pierre avait épousé en seconde noce une manante. C'est alors que ses autres Sokolski prirent du lustre. Mais de quoi parlais-je? Il était très fatigué, semblait divaguer.
« Calmez-vous donc, » dis-je en me levant pour le départ.
« Couchez-vous, c'est le plus pressé. Et le prince Nicolas Ivanovitch ne saura rien vous refuser, surtout maintenant, dans sa joie. Savez-vous l'histoire? Non? Une chose insensée, il se marie. C'est un secret, mais pas pour vous, naturellement. » Et je lui avais tout raconté, déjà debout et mon chapeau à la main. Il ne savait rien. Je ne peux exprimer quelle impression déprimante produisit sur lui cette nouvelle. Sans doute le refus d'Anna Andreïevna avait-il horriblement atteint son amour-propre. Il s'était cru si sûr d'emporter la place. Peut-être aussi souffrait-il du remords d'avoir fait, et en pure perte, une démarche si cruelle pour Lise. Enfin, relevant la tête et orgueilleusement, « M'avez-vous par hasard supposé assez vil pour demander de l'argent à l'homme qui me supplante auprès de cette femme ?»« Allons, tout est perdu maintenant. Le concours du vieillard était mon espoir dernier. Que cet espoir aussi périsse !» Et il avait souri d'un air fatal. Chapitre 8 1 Toute cette nuit-là, je rêvais au jeu. Je dirais la vérité. À chaque instant, au cours de la journée précédente, ma chance de la veille me revenait à la mémoire. Le gain m'avait mordu à vif. Suis-je donc né joueur? En tout cas, avec des instincts de joueur. Maintenant même que j'écris tout cela, il m'arrive de passer des heures entières, muet, à suivre sur un tapis fictif l'enchevêtrement des hasards. J'avais l'intention d'aller à 10 heures chez Stiebielkov, à pied. J'avais en conséquence renvoyé Mathieu. Je buvais mon café et j'étais de fort bonne humeur. La bonne humeur est chez moi assez anormale pour que je m'en inquiète. J'analysais donc le phénomène. Il avait pour origine ceci. J'irai aujourd'hui chez le prince Nicolas Ivanovitch. La journée commença par une surprise. À 10 heures juste,
Tatiana Pavlovna entrait chez moi en coup de vent. Je me serais attendu à tout, sauf à sa visite. Son visage était farouche, ses mouvements désordonnés, et si on lui eût demandé ce qu'elle venait faire là, elle eût sans doute été fort incapable de répondre. Le fait est qu'elle venait de recevoir une nouvelle qui la suffoquait. Elle ne resta chez moi qu'une demi-minute, mettons une minute entière, mais pas plus. Elle s'était accrochée à moi.
« Ah, c'est ainsi alors ? Ah, le blanc-bec ! Qu'as-tu fait ? Est-ce que tu ne sais pas encore ? Il prend son café. Ah, le bavard ! Ah, le moulin à parole ! Amoureux en papier mâché, va ! On fouette des bons hommes comme toi ! On les fouette ! On les fouette ! »
Tatiana Pavlovna, qu'est-il arrivé ?
Maman ?
Tu le sauras ! Cria-t-elle menaçante, et se précipitant vers la porte, elle disparut.
Amoureux en papier mâché ?
Amoureux en papier mâché ? Me disais-je. Évidemment, parmi toutes ces imprécations, ce doit être le mot essentiel. Je vais me débarrasser de la corvée de Siebielkov. Puis je me rendrai chez le prince Nicolas Ivanovitch. Là doit être la clé de tout.
Siebielkov déjà savait tout sur Anna Andreevna, et son enthousiasme se déchaînait.
« Voilà une gaillarde, celle-là ! Non mais, quelle gaillarde ! Ah, ce n'est pas comme nous ! Nous restons là, et plus rien, plus personne !
Elle, elle a voulu boire de l'eau d'une source claire.
Elle a bu ?
Elle... C'est une statue antique ! C'est la statue antique de Minerve ! Seulement, elle marche et porte robe. »
Je l'avais priée de passer à l'affaire. Toute l'affaire, comme je l'avais prévu, consistait en ceci. Persuader au jeune prince d'aller solliciter l'appui financier du prince Nicolas Ivanovitch. Cela pourrait tourner très mal pour lui, et pas par ma volonté. Est-ce ainsi, oui ou non ? Il me regardait dans les yeux, mais je ne lui laissais voir à aucun signe que je susse quelque chose de plus qu'hier, et par exemple l'existence des actions. Et il me promettait de l'argent. Beaucoup, beaucoup. Seulement, insister auprès de lui pour qu'il fasse la démarche. L'affaire est urgente, très urgente, extraordinairement urgente. Discuter et disputer comme la veille, je m'en souciais peu. Je me levai donc, lui jetant pour toute pâture un « je tâcherai ». Tout à coup, il m'étonna inexprimablement. Comme j'étais déjà au seuil, il s'élança, m'enlaça par la taille et commença à évacuer les dires les plus incompréhensibles. J'omets les détails, les digressions. Le sens était tel. Le maître en rapport, lui, Siebielkov, avec Diergatchov, à la faveur de mes relations avec celui-ci. Je restai silencieux, attentif à ne me trahir par rien. Quand il eut fini, je l'avisai que je ne connaissais, pour ainsi dire, pas Diergatchov, n'ayant été le voir qu'une seule fois.
« Mais si vous avez été admis chez lui une fois, vous pouvez y retourner une autre fois. Est-ce vrai ou non ?»
Avec calme, je lui demandai pourquoi il désirait faire la connaissance de Diergatchov. Et aujourd'hui encore, je ne comprends pas comment tant de naïveté pouvait se concilier avec sa rouerie professionnelle, d'homme d'affaires, comme l'avait dénommé Vassine, et sa naturelle astuce. Il m'exposa sans fard que chez Diergatchov, sûrement se passaient des choses défendues, sévèrement défendues, et que, par conséquent, s'il parvenait à se renseigner sur ces choses, il pourrait en tirer un certain profit. Et tout souriant, il cligna de l'œil gauche. J'avais répondu évasivement, avais promis de réfléchir et m'étais empressé de me retirer. Les affaires se compliquaient. Je courus chez Vassine.
« Ah, vous aussi !» dit-il en m'apercevant.
Sans m'attarder à l'énigme de son exclamation, j'avais abordé l'affaire, lui avais tout raconté. Il était visiblement frappé, mais il ne perdit pas son sang-froid.
« Il se peut que vous ayez mal compris. »«
Non,
le sens était clair.
En tout cas, je vous suis extrêmement reconnaissant, ajouta-t-il d'une voix sincère.
Oui, certainement, s'il s'est adressé à vous, c'est qu'il admettait que vous ne tiendrez pas devant une certaine somme.
Ma situation en effet lui est trop connue, je jouais tout le temps, je me conduisais mal, Vassine.
Je l'ai entendu dire.
Ce qui me paraît le plus inexplicable, c'est que sur vous aussi il est renseigné. Il sait que vous fréquentez là-bas.
Il sait trop bien que je n'ai rien à y faire. Au surplus, ces messieurs ne sont que des causeurs, rien de plus.
Vous pouvez vous le rappeler mieux que personne.
Je sentais qu'il n'avait pas toute confiance en moi.
En tout cas, je vous suis très reconnaissant, réitéra-t-il.
On dit les affaires de Siebielkov quelque peu dérangées. Du moins, j'ai entendu parler de certaines actions.
De quelles actions avez-vous entendu parler ?
J'avais jeté dans le débat le mot « action » pour en expérimenter l'effet. À une contraction presque imperceptible de sa figure, je vis que, sur ce point aussi, il savait quelque chose. Je n'avais pas répondu à sa question « quelles actions ?» Il s'abstint d'insister et bifurqua.
« Comment va la santé d'Elisabeth Makarovna ?»«
À merveille. Ma sœur vous a toujours estimée. »
Un contentement brilla dans ses yeux. Dès longtemps déjà, j'avais deviné qu'il avait un faible pour Lise.
Récemment, j'ai reçu la visite du prince Serge Petrovitch, me dit-il soudain.
Quand ?
Il y a juste 4 jours.
Pas hier ?
Non, pas hier.
Il me regardait d'un air interrogateur. Plus tard, peut-être, vous donnerai-je des détails à ce sujet. Pour le moment, je veux simplement vous prévenir qu'il semble être dans un état d'âme anormal et n'avoir pas l'esprit très d'aplomb.
Du reste, ajouta-t-il en souriant, j'ai eu immédiatement avant votre arrivée une autre visite.
Le prince ?
Non, pas le prince, je ne parle plus du prince. C'était André Petrovitch Versilov.
Vous ne savez rien ?
Il ne lui était rien arrivé de particulier ?
Il était fort agité, lui aussi.
Il est possible qu'il lui soit arrivé quelque chose. Et que se passa-t-il entre vous ?
Peut-être aurais-je mieux fait de ne rien vous dire. Mais il y a trop de mystères entre nous. Du reste, André Petrovitch ne m'a pas imposé le secret.
Et vous, vous êtes son fils, et je connais vos sentiments pour lui.
Imaginez-vous qu'il était venu me demander si, dans le cas où, l'un de ces jours, bientôt il aurait un duel, je consentirais à l'assister comme témoin. Naturellement, j'ai répondu non. Je me rappelais tout à coup le ton dont Versilov m'avait dit la veille « Je n'irai pas chez toi, mais tu accourras chez moi. » Décidément, je devais avant tout me rendre chez le prince Nikolai Ivanovitch. Vassine, en me disant adieu, me remercia encore une fois. 2. Le vieux prince était assis devant la cheminée, les jambes enveloppées d'un plaid. Il m'accueillit d'un regard interrogateur, comme étonné que je fusse là. Du reste, il m'avait dit bonjour avec douceur, mais, à mes premières questions, avait répondu comme à regret. On eût dit qu'il cherchât à reconstituer ses souvenirs, et il me regardait avec une curiosité inquiète. J'avais dit carrément que je savais déjà tout et que j'étais content. Un bon et avenant sourire s'épanouit aussitôt sur ses lèvres. La prudence et la méfiance s'envolèrent. Évidemment, il oubliait déjà ses préoccupations de la minute précédente.
« Mon cher ami, je savais bien que tu serais le premier à venir, et hier encore j'avais pensé à toi. Qui va se réjouir ? Va-t-il être content ? Et nul autre que toi. Ah, les hommes sont de méchantes langues. Mais peu importe. Cher enfant, c'est si grand et si beau. » Mais tu la connais bien toi-même, et Anna Andreïevna a de toi tout à fait bonne opinion.
Elle, c'est un visage grave et charmant de keepsake. C'est la plus ravissante des gravures anglaises. Il y a 2 ans, j'avais une collection de ses gravures.
Autant que je me souvienne, vous avez toujours prisé très haut, Anna Andreïevna.
Mon ami, nous ne voulons nuire à personne. La vie avec les amis, les parents, avec les êtres chers au cœur, c'est un paradis. Tout le monde est poète. Tu sais, en été, nous irons à Soden, à Bad Gastein. Il y a longtemps que tu n'étais venu.
Mais qu'as-tu ?
Je t'attendais. Aussitôt que je reste seule, je sens une sorte d'angoisse. Voilà pourquoi je ne dois pas rester seule.
J'avais compris cela dès ses premiers mots.
Oh, mon ami, elle n'a dit que 2 mots.
Mais quel poème !
Du reste, tu es son frère, presque son frère, n'est-il pas vrai ?
Mon cher, ce n'était pas pour rien que je t'aimais. Je jure que je pressentais tout cela. Je lui ai baisé la main et j'ai pleuré.
Il tira son mouchoir comme pour pleurer de nouveau.
J'aurais pardonné à tous, mon ami, continuait-il à voix chevrotante. J'ai envie de pardonner à tout le monde. Et il y a longtemps que je n'en veux à personne. L'art, la poésie dans la vie, et secourir les malheureux. Et elle, la beauté biblique. Quelle charmante femme, hein ? Les chants de Salomon. Non, ce n'est pas Salomon, c'est David, qui mettait une jeune belle dans son lit pour se réchauffer dans sa vieillesse. Enfin, David, Salomon, tout cela tourne dans ma tête. Un gâchis. Toute chose, cher enfant, peut être sublime et en même temps ridicule. Cette jeune belle de la vieillesse de David, c'est tout un poème, et Paul de Kock en aurait fait une scène de bassinoire, et nous aurions tous ri. Paul de Kock n'a ni mesure ni goût, quoi qu'il ait du talent. Catherine Nikolaïevna sourit. J'ai dit que nous n'ennuierons personne. Nous avons commencé notre roman. Qu'on nous laisse l'achever. Un rêve, soit, mais qu'on ne nous enlève pas ce rêve.
Comment cela, un rêve, prince ?
Un rêve ? Comment un rêve ? Eh bien, que cela soit un rêve, mais que l'on meure avec ce rêve.
Oh, prince, pourquoi mourir ? Vivre, c'est maintenant qu'il faut vivre.
Qu'est-ce que je dis, moi ? Je répète cela tout le temps. Je ne sais pas pourquoi la vie est si courte. Elle est l'œuvre d'art de Dieu. Il l'aura voulu parfaite, comme un poème de Pouchkine, et il sait que la brièveté est une condition de la beauté. Mais enfin, ceux que la vie n'ennuie pas, il faudrait les laisser vivre plus longtemps.
Dites, prince, c'est déjà officiel ?
Non, mon cher, non, nullement. C'est en famille, rien qu'en famille. Je me considère comme coupable envers Catherine Nikolaïevna.
Oh, Catherine Nikolaïevna est un ange, c'est un ange.
Oui, oui. Oui, tu dis aussi oui. Et pour moi qui pensais que tu étais son ennemie.
Ah, à propos, elle m'a prié de ne plus te recevoir.
Et figure-toi qu'à ton entrée, j'ai tout à fait oublié cela.
Que dites-vous ? Pourquoi ? Quand ?
Mon pressentiment ne m'avait pas trompé. Oui, je pressentais quelque chose de ce genre depuis la visite de Tatiana.
Hier, mon cher, hier, je ne comprends même pas comment tu as passé, car les mesures sont prises. Comment es-tu entré ?
Je suis entré tout droit.
C'est le plus probable. Si tu avais voulu entrer par ruse, ils t'auraient attrapé sûrement. Mais comme tu es entré tout droit, ils t'ont laissé passer.
La simplicité, mon cher, est au fond la plus grande ruse.
Alors, vous aussi, vous avez décidé de ne pas me recevoir ?
Non, mon ami, j'ai dit que je ne m'en mêlais pas. C'est-à-dire, j'ai donné mon consentement complet. Et sois sûr, mon cher garçon, que je t'aime trop. Mais Catherine Nikolaïevna avait exigé cela avec beaucoup, beaucoup d'insistance.
À ce moment,
sur le seuil, parut Catherine Nikolaïevna. Elle était habillée pour sortir et elle passait chez son père, l'embrasser. M'ayant aperçue, elle s'arrêta, se troubla, fit demi-tour et sortit. « Voilà !» s'écria le prince stupéfait et extrêmement ému.
« C'est un malentendu !» m'écriai-je.
« Un moment, je reviens tout de suite, prince !» Je me précipitai dans l'appartement de Catherine Nikolaïevna. Mais le valet de chambre m'apprit qu'elle venait de sortir, qu'elle montait en voiture. Je me lançai dans le grand escalier. Catherine Nikolaïevna, en pelisse, était en train de le descendre, accompagnée d'un officier en uniforme, sans manteau, le sabre au côté. Par derrière venait un laquais, porteur du manteau. C'était le baron, le colonel, un homme de 35 ans, assez maigre, pas beau, élégance militaire, moustache rousse, sourcils roux. Son visage, trop long, avait une expression arrogante. Je décris grosso modo ce que je remarquais sur le moment. C'était la première fois que je le voyais. Je courus après eux dans l'escalier, sans chapeau et sans pelisse. Catherine Nikolaïevna, m'ayant aperçu, murmura vivement quelque chose à son cavalier. Il tourna la tête vers moi et aussitôt fit un signe au Suisse et au domestique. Celui-ci s'approcha, mais je l'écartai de ma main et je l'y suivis sur le perron. Bioring mettait en voiture Catherine Nikolaïevna.
« Catherine Nikolaïevna ! Catherine Nikolaïevna ! »
exclamai-je comme un insensé.
« Comme un sot, comme un sot ! Oh, je me rappelle de tout. J'étais sans chapeau. »
Bioring se tourna férocement vers le domestique, donna un ordre bref. Je sentis que quelqu'un me saisissait au coude. À ce moment, la voiture s'ébranla. Je poussai un cri et voulus m'élancer derrière. Catherine Nikolaïevna, la tête à la portière, regardait et paraissait très troublée. Mais dans le mouvement brusque que j'avais fait pour courir, j'avais involontairement heurté Bioring. Je crois même que je lui avais marché sur le pied. Il poussa un cri léger, grinça des dents, et d'une poigne robuste me saisit par l'épaule et me lança à trois pas. Cependant, on lui avait donné sa pelisse. Il sauta dans le traîneau, me désignant du doigt au laquais et au Suisse qui me retinrent. L'un m'affubla de mon manteau, l'autre de ma coiffure. Je ne me rappelle plus ce qu'il me disait. Il disait quelque chose, et je restais là, à les écouter sans rien comprendre. Et tout d'un coup, je les avais plantés là et avais pris ma course.